Nous allons prier. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonjour les amis, si vous pouvez, si vous m'entendez, faites un petit cœur, un petit truc hein, jaune ou bleu pour que je sache si vous écoutez. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit psaume pour nous rafraîchir, n'est-ce pas? Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Pitié et zèle, c'est-à-dire miséricorde, compassion. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Des hautains. Je lis quelques versets dans le psaume 126. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous savez que je vais continuer l'enseignement sur l'Église catholique et j'aborde maintenant le psaume 127. Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu et il est responsable de la maison de son Père. C'est dans Hébreux. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Bon, je vais dire que pour les Juifs en général, il fallait avoir des fils parce qu'il fallait assurer la descendance et surtout la défense du pays, mais on peut dire aussi, voici, des fils sont un héritage éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. On pourrait dire aussi les filles. Pourquoi? J'ai vu en Israël, les jeunes femmes vont à l'armée autant que les hommes. Elles font 18 mois ou 15 mois, les hommes font 3 ans, et elles font du parachutisme, elles font de tout, elles sont rodées à défendre leur pays. Donc je pense que les flèches dans la main du guerrier, c'est autant les filles que les hommes. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Je veux dire personnellement que nous assumons l'œuvre missionnaire avec nos 3 filles. Elles sont dans le carquois. Peut-être un jour, nos fils. Alors, nous allons reprendre la méditation sur l'histoire de l'apparition et de la constitution du catholicisme. Vous avez déjà eu deux messages sur cela, sur Facebook, qui sont conservés et qui seront mis sur le site par notre frère Jean-Christophe. L'autre jour, mercredi, je n'étais pas là, je devais aller à l'aéroport de Luxembourg chercher des personnes qui arrivaient à l'avion. Et donc c'est Jean-Louis Mélis de notre église qui a fait un message. Et pratiquement, c'est les deux messages précédents, celui de lundi passé et du vendredi passé, qui concernent l'apparition, la constitution du catholicisme. Aujourd'hui donc je continue. Donc, vous avez remarqué que je vous parlais qu'au 7e siècle, il y avait d'énormes divisions très accentuées entre les patriarcats. Syrie, Antioche de Syrie, Alexandrie en Égypte, Carthage en Tunisie, c'était les Numides, Carthage, Rome, qui voulait prendre la prérogative sur tout le monde, et puis Marseille, en France. Marseille, Lyon, souvent. Mais ce qu'il y a, est Constantinople, qui est devenu Byzance, et puis ensuite Istanbul. Tous ces patriarcats chrétiens avaient des armées et avaient des forces, je dirais, pour défendre leurs intérêts, et ils avaient des intellectuels, des théologiens, etc. Donc, les patriarcats ont accentué les différences et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ces patriarcats, c'est pas seulement que le catholicisme dont il faut parler, c'est une évolution générale de la chrétienté. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ça n'a pas été le cas. À ne point avoir de division parmi vous. Ça n'a pas été le cas. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Voilà la ligne droite que rappelait l'apôtre Paul, comme Pierre, tous les autres, Jean, et surtout Jésus-Christ. Demeurez dans mon amour. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Enfin, donc deux responsables de synagogue, qui étaient à Corinthe, et sans cri de ville, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourtant, il est mis... Allez, faites des disciples dans toutes les nations, enseignez-leur, observez tout ce que j'ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que tout de suite, chacun se réclame de, je dirais, un patriarche, d'un responsable, vis-à-vis du baptême qu'il leur a accordé. Et c'est ce qui s'est passé, le baptême dans le patriarcat d'Antioche, en Syrie, ou d'Alexandrie, ou de Constantinople, ou de Carthage, ou de Rome, ou de Éphèse, de Lyon, eh bien, c'était pas la même chose. Le stempel, le cachet pour les autres n'était pas bon. Donc, le baptême est devenu une question d'appropriation, d'identification politique, régionale, patriarcale, idéologique. Est-ce que c'est encore spirituel? Est-ce que c'est ça l'évangile? Alors, il y a eu, bien sûr, d'autres problèmes qui se sont passés. Nous allons prendre Matthieu 5, versets 38 à 48. Matthieu 5, versets 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Figurez-vous qu'entre chrétiens, on en était là. Je vous ai expliqué l'autre jour que la flotte des pays chrétiens de Syrie, d'Antioche de Syrie, descendait le long de la Palestine pour aller attaquer Alexandrie en Égypte, pays chrétien. Et quand les chrétiens, les responsables chrétiens de Alexandrie, d'Égypte, se sont rendus compte qu'ils allaient avoir la fessée, ils ont appelé 3000 cavaliers des déserts d'Arabie musulmans. Les musulmans sont venus sur le port. Quand les chrétiens syriens d'Antioche, de Syrie, l'ont appris, ils ont fait demi-tour. Et je vous ai dit que les cavaliers sont restés. Et cette nuit-là, ils ont pris toute l'Égypte. Ils ont brûlé toute l'immense bibliothèque juive et chrétienne, un des joyaux de l'humanité. Le responsable des 3000 hommes a dit, le Coran suffit. Alors, vous voyez bien que l'hostilité, la méchanceté ne peut pas servir la cause de Christ. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Clairement, on n'a pas entendu Jésus-Christ pour en arriver là. On faisait des beaux chants, de l'encens, des belles mélodies, des beaux habits liturgiques, et puis voilà. Jésus-Christ, la cinquième roue de la charrette. 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Bonjour Françoise. Coucou Françoise. Parce que je ne voyais personne, mais quand il y a du soleil, c'est souvent le cas, les personnes, les chrétiens, regardent plus tard. Donc je ne m'affole pas. Je fais ce que je dois faire. Bonjour Françoise. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pourquoi y a-t-il parmi vous de la jalousie et des disputes? N'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moins desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, ça, évidemment, voulez-vous venir à la rue royale, à côté de l'hôtel royal? Je peux vous montrer trois banques avec des noms en latin, c'est des banques du Vatican, il y en a encore trois, quatre autres sur la terre, hein. Mais ce qu'il y a, on n'accepte pas de clients avec moins d'un million d'euros. Alors, c'est pas ça? Bâtir avec de l'or et de l'argent. Au même moment à Luxembourg, sur la piste, il atterrit des avions qui viennent des pays où il y a la charia, avec de l'or, des bijoux, et l'avion descend, et on descend sous terre, et il y a des coffres-forts. C'est bizarre. D'un côté, l'Église catholique, de l'autre côté, les pays de la charia. Sans doute que tout le monde est copain, l'air de rien. Alors, ce que je veux dire, c'est que on a bâti avec de l'or et de l'argent. On a bâti avec Mammon. Avec Mammon, oui. Et on continue à bâtir. Alors, il y a encore des autres choses. Si quelqu'un, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le foin, le chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Peut-on construire une belle maison à Dieu avec du foin, avec du chaume? Mes amis, pendant qu'on met Dieu dans des maisons de foin et de chaume, on met de belles, on construisait à cette époque-là, au 7e siècle, des belles basiliques et on commençait à faire de beaux bâtiments, magnifiques, splendides, pour les princes évêques, pour les évêques, pour les patriarches. Alors ça, c'est le 7e siècle. Bien sûr, au 7e siècle, le patriarche de Constantinople et l'évêque de Rome ne se supportent plus. Et ils vont envoyer le même jour ce qu'on appelle une bulle d'excommunication. C'est-à-dire, ils vont trouver un verset biblique pour dire, tu n'es pas chrétien. Ils vont prendre la Bible. C'est bien, hein? Pour s'exclure. Et l'Empire romain s'est divisé. Crac. Et ça a été la bagarre. La bagarre. Il y a eu des conflits, etc. Le papisme et l'orthodoxie en sont venus aux mains. Mes chers amis, est-ce qu'il est possible d'imaginer des choses pareilles alors que Jésus ne l'a pas demandé? Alors, prenons Matthieu 13, verset 33. Coucou. Coin, coin. Vous savez que le chapitre 13 de Matthieu, c'est un chapitre sur des paraboles. Il y en a des autres, hein, à la fin du chapitre 24 et chapitre 25. Il y en a dans Luc, etc. Alors, Matthieu, chapitre 30, 13, verset 33. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Quand j'étais catholique, j'imaginais que c'était vraiment le christianisme, la chrétienté, la foi qui s'augmentait. Et le petit levain, c'était Jésus, c'était les apôtres de l'Évangile. Mais c'est pas ça. Le levain, c'est du poison, c'est le mauvais enseignement. C'est le faux enseignement, chers amis. Le faux enseignement qui a été donné à ce moment-là, qui s'est répandu et qui a détruit, mais pas les vrais chrétiens, détruit la population en leur laissant croire qu'ils étaient dans la voie du Seigneur Jésus, avec un mauvais enseignement. Chapitre 16, verset 11. Comment ne comprenez-vous, chapitre 16, verset 11 de Matthieu, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain, de pain, du pain ou des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Oui, mais à l'époque du 6e, 7e siècle, les sadducéens et les pharisiens, ce sont des patriarches, ce sont des théologiens, ce sont des religieux. Ça continue. Ça continue d'une autre manière. C'est de l'imposture, chers amis. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 12. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 12. Je vous encourage toujours à reprendre votre Bible, à regarder les versets, à tout analyser. C'est la Bible qui est la vérité. Ce n'est pas moi. 2 Corinthiens 12. Qu'est-ce que dit Paul quand il a des révélations qu'il est en Christ? Eh bien, il va montrer qu'il est brisé par Christ pour ne pas être orgueilleux. Pour ne pas être orgueilleux, pour ne pas se glorifier, pour ne pas monter sur un podium. Deuxième Corinthiens chapitre 12, il faut se glorifier, ce n'est pas du tout bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, des révélations que le Seigneur m'a procurées. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Donc il a senti que son âme sortait de son corps et qu'il était élevé, élevé. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il y a des centaines de milliers de cas. Mais ici, ce qu'il y a, il est ravi. Il connaît le ravissement du troisième ciel. Le premier ciel, ce sont les âmes sauvées. Le deuxième, c'est les anges chez les archanges. Le troisième, au-dessus, c'est qui? Les archanges, trône de gloire de Dieu. Avec Christ et le Père. Il a été face à Dieu. Donc, quand on entend des témoignages de quelqu'un qui a été opéré, du cerveau, etc. Oui, j'ai vu un tunnel blanc, j'ai vu quelque chose de blanc, c'était merveilleux, etc. Oui, il a vu à peine le premier ciel, à peine. Mais il a déjà goûté à la paix du ciel. Mais Paul était face à Dieu. Comme Ésaïe, au chapitre 6. Comme Moïse. Comme l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 1. Là, ça ne blague plus. Face à Dieu. Vous voyez bien que dans l'Apocalypse, Jean tombe dans les pommes des fois. Daniel aussi. Tellement c'est grandiose, tellement c'est impressionnant. Ils sont bouleversés. Donc, ravi, ravi, c'est complètement bouleversé. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il a entendu les paroles des anges, des archanges, à mon avis, de Christ, qui s'adressait au Père. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alors, Paul, à cette époque-là, quand il écrit cela, il est à Éphèse. Pendant 2-3 ans, il a les yeux purulents, il a comme des crises d'épilepsie. Il est anéanti. Il est incapable de voyager, il n'est même pas capable d'écrire l'épître, il a dicte, et ce sont des frères qui l'écrivent. Et lui, bien sûr, il la signe devant des témoins. Il avait 24 collaborateurs, Paul. Alors, ce qui se passe, regardons bien, pour que je ne sois pas, au verset 7, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'était mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle est la grâce de Christ? La grâce de Christ, c'est son sacrifice à la croix et sa résurrection. C'est sa manifestation de le cœur du croyant par le sang de sa croix, pour le confondre dans son péché, pour qu'il se repente et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Évidemment, chers amis, c'est la grâce qui suffit. Donc, c'est pas l'homme, l'apôtre Paul, ni Apollos, ni Pierre, etc., qui sont nécessaires. Donc, nous avons la réponse à tout ce qui est. Tout ce qui s'est dégradé au fur et à mesure des siècles, c'est des hommes qui ont donné des enseignements C'est le levain des pharisiens, des sadducéens, qui a continué sous d'autres formes. Alors, chers amis, si Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », il ne s'agissait pas d'avoir des armées et des grandes basiliques, des grandes cathédrales, puisque la faiblesse plaît à Dieu, puisque c'est la condition du vrai serviteur. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Chers amis, vous voyez, je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans la situation et qui ont la paix de Dieu pour continuer dans la foi. Et nous, en Occident, je me plais dans ma faiblesse, devant la télévision, dans mon canapé, dans mes pantoufles. J'ai peur du Covid, je perds de mes sous, j'ai peur de mes factures. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Il faut se surveiller. Il y a une faiblesse biblique et il y a une faiblesse charnelle, qui vient de notre péché, de notre manque de consécration. Je suis un peu dur, mais je me mets dans le cas avec. Il y a des faiblesses dont j'ai honte. Et j'espère, chers amis, que vous avez fait l'expérience, le Saint-Esprit fait rougir de certaines faiblesses, de certaines lâchetés, de certaines démissions. Il fait rougir pour qu'on se corrige, qu'on vienne complètement à Christ, dans son amour, dans sa grâce. Donc, vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que, à l'époque où tout ça est arrivé au 6e, 7e siècle, c'est pas facile. Les vrais chrétiens, il y en a toujours eu. Comme à l'époque d'Achab et Jézabel, il y a eu Élie et 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Aujourd'hui, vous êtes peut-être de ceux-là, je souhaite, et qu'est-ce que a dit Jésus? C'est un frère qui est venu en visite à chez nous, qui est encore là, qui m'a cité ce verset-là. Luc 12, verset 32, ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est beau ce verset-là. Et regardez bien, Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau. Donc, les grandes institutions chrétiennes, le grand falbala, le grand Barnum Circus de l'histoire, où la politique et la religion sont mélangées, ce n'est pas le petit troupeau. Mais dans toutes ces foules-là, dans toutes les assemblées, il y avait des personnes qui faisaient partie du petit troupeau. Il y avait des chrétiens nés de nouveau, il y avait des chrétiens qui aimaient Christ et qui supportaient bien tant mal le mensonge environnant et qui essayaient de vivre dans la sainteté. Parce que le royaume, c'est la justice, c'est-à-dire la sainteté, l'obéissance à Dieu, c'est vivre sous le pardon de Dieu. Et c'est l'obéissance. Le royaume de Dieu, c'est paix, joie, amour et justice. L'œuvre du Saint-Esprit, en toutes circonstances, peut se faire dans la vie d'un chrétien, même en période de grands mensonges institutionnels où la politique et la religion se mélangent. On peut toujours tenir la route avec le Seigneur si on se repose sur lui. Cela se passe dans notre cœur. Ne crains point, petit troupeau. Le petit troupeau, c'est des brebis. Il y a donc un berger avec le bâton et la houlette. Donc c'est le psaume 23. Et l'Éternel marche devant le petit troupeau dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il conduit aux eaux paisibles, au vert pâturage. Eh oui, en toute période, en tout siècle, la vallée de l'ombre et de la mort a existé. Donc tout ce qu'on appelle les périodes glorieuses et magnifiques de la chrétienté ne sont pas forcément glorieuses aux yeux de Dieu. Donc quand on m'a demandé, la jeune fille de Champigny-sur-Marne m'a demandé de parler de l'apparition il y a 10 jours, de catholicisme, je ne peux pas dire qu'il n'y a que le catholicisme. Il y avait les chrétiens syriaques, il y avait les chrétiens d'Égypte, Il y avait les chrétiens de Byzance, de Carthage, c'est un petit peu comme aujourd'hui, il y a les chrétiens des États-Unis, les chrétiens de Chine, les chrétiens d'Europe, de Rome. Que voulez-vous que je dise? Il faut chacun qu'on ouvre les yeux, qu'on analyse les choses. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors, dans l'évangile de Matthieu, on a toujours l'expression royaume des cieux, tandis que dans Luc et Marc, on ne l'a pas. Qu'est-ce que veut dire Matthieu exactement? Eh bien, ce que durant tout le temps de l'Église, depuis le jour où Jésus est monté au ciel, l'ascension, hein, c'était cette semaine, jusqu'au moment où il revient, nous avons une réalité contradictoire. Nous avons du blé livré, des brebis et des boucs, nous avons un peu de tout. Nous avons du levain, nous avons aussi des gens qui souffrent pour Christ et qui sont vraiment fondés en Christ. Alors, regardez bien ce qu'il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se mit à livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a livré? D'où vient donc que dans la chrétienté, dans le christianisme, il y a tellement de contradictions que des pays chrétiens font la guerre, fabriquent des armes, polluent la terre, colonialisent, mentent, s'arrangent avec des puissances financières et diaboliques. Comment se fait-il? Bien, vous avez l'explication, c'est de l'ivraie. Alors, d'où vient cette ivraie? Vous avez donc, du verset 24 à 34, la parabole de l'ivraie, et puis vous avez l'explication au verset 36 à 43. Et qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples qu'il met à part? Verset 36 à 43, je vais au verset 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, par rapport à la première parabole, au début du chapitre 13, qui est la première génération de chrétiens, nous avons ici l'expression, la description. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième génération de chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, Jésus met dans le monde les fils du royaume. Au verset 38, le champ c'est le monde, la bonne semence c'est un fils du royaume. Il met dans le monde les véritables enfants de Dieu. Il met les fils du royaume. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable pour mettre la confusion? Dans le même verset, au verset 38, livrés, ce sont les fils du malin. Le diable met des gens qui ressemblent à des chrétiens et qui ne le sont pas. C'est les fils du malin. Spirituellement, ils sont du malin. Chers amis, vous voyez bien que dans son verset, Matthieu 13, 38, nous avons la description de la réalité spirituelle ou non spirituelle, la charnelle, de la chrétienté. Et ayant fait de la culture bio, en ayant eu du blé et de l'ivraie, forcément, j'ai remarqué que l'ivraie est très puissant et il étouffe le blé. Et si on laisse l'ivraie augmenter, augmenter dans tout le sol, vous prenez une poignée de terre avec vos deux mains, il y a les trois quarts de chiendent, d'ivraie. Pour finir, le pauvre blé, qu'est-ce qu'il devient là-dedans? C'est un peu l'histoire du christianisme dans certains pays. D'Europe notamment, où il y avait tellement de faux christianisme vis-à-vis des vrais chrétiens. Et regardez bien, Jésus dit de laisser pousser le blé en même temps que d'ivrer. Ah, ça nous fait une belle jambe, on va dire. Jésus nous demande de souffrir. Jésus nous demande de subir la contradiction. Oui, Jésus a dit, Jean 16, 33, courage, j'ai vaincu le monde, vous aurez des tribulations. On ne peut pas les éviter, chers amis. Si on est du bon blé, si on est enfant du royaume, on doit, bien sûr, savoir que le chien d'an, les fils du malin, sont bien, apparemment, bien plus forts, plus dominants. Mais c'est, il y a quelque chose. Il y a une autre parabole chez Jésus, il dit, avec quoi salera-t-on la terre? Si le sel ça pas dit, avec quoi salera-t-on la terre? Eh bien, les rabbins m'ont donné l'explication. Il y a une technique à l'époque de Jésus où on prenait du sel marin mélangé au fumier, puis on le mettait dans le sol. Et de ce fait, le sol était moins acide et le chien d'en disparaissait à 90-85%. On arrivait à arrêter, à dominer sur l'œuvre du chien d'en, de livrer. Donc on peut arriver à contrecarrer l'œuvre du malin par le sel. Quel est ce sel, chers amis? Une véritable alliance avec Christ, une véritable vérité où on est purifié par le sel. Si vous avez une plaie, vous avez une plaie infectée, mettez du sel, vous allez voir comment vous allez souffrir. Vous avez tout nettoyé. Il est sûr et certain que le sel, c'est le symbole de la purification par Christ dans la vie du chrétien. Et automatiquement, à l'entour de lui, ce chrétien n'apporte pas tous ses péchés, ses vices, ses mauvaises manières, sa mauvaise éducation, son mauvais passé. Il est tellement transformé par cette union, cette alliance avec Christ, qu'il apporte Christ, un petit peu de sa nature pécheresse, un petit peu de son passé, un petit peu de sa faiblesse, éducatif ou national, culturel, mais c'est clair, il y a moyen pour un chrétien qui est enfant de Dieu d'être toujours fidèle et de tenir bon et de résister à l'ivraie. Il faut du sel, il faut une alliance véritablement qui purifie avec Christ. Un chrétien qui ne se laisse pas corriger par Christ, même qu'il aime Christ, même qui veut évangéliser, ça sera un chrétien, ça sera une semence, mais alentour d'elle, il va favoriser la croissance de tout livré. Il va faire venir tous les fils du diable, parce qu'il a tellement de mauvaises paroles, de mauvais comportements, qu'il favorise l'œuvre du malin, et alors qu'il veut bien faire, il ne se rend pas compte qu'il doit renoncer à lui-même. Et d'où le verset que Jésus a dit, « Celui qui me donne sa vie la sauve, celui qui veut la conserver pour lui-même, la perdra. » Il s'adresse à des chrétiens. Nous ne pouvons pas garder le péché en nous. Nous devons le combattre. Notre ennemi n'est pas les autres. Notre ennemi, c'est mon péché. Donc, la repentance et l'œuvre du Saint-Esprit en nous est primordiale. Jésus l'a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Jean 6, verset 33, je pense, et 65. Alors, chers amis, dans toute cette période de croissance de la chrétienté, mais pas toujours de la foi, il y a eu réellement des gens de qualité. Il faut savoir qu'il y a eu des gens de qualité qui étaient vraiment du bon blé et qui n'amenaient pas beaucoup de chiens dents avec eux. Et donc, il y a eu des témoins dans la vie chrétienne. Il y a des bons, si vous prenez... Blandine, par exemple, à Lyon, qui a été mise au Lyon, Blandine, c'était une chrétienne qui a donné sa vie pour témoigner sa foi. Vous savez, dans la Géorgie, le roi géorgien, c'était un dur. Et il faisait pas de cadeaux à ses ennemis. Et un jour, il y avait une petite prisonnière chrétienne dans sa cour. Cette petite chrétienne a jeûné et prié toute sa vie. Elle est restée célibataire. Elle a servi le roi de Géorgie et toute la cour, elle a gagné à Christ toute la cour et tout le royaume de Géorgie. Alors, vous voyez bien que la petite graine peut faire jeter la montagne, dans l'océan. La petite chrétienne peut jeter la montagne dans la mer. Sa petite foi a gagné le roi de Géorgie. Et à combien de places, chers amis? Beaucoup de places, il y a eu ça. Donc ce n'est pas ceux qui se rengorgent, qui sont prétentieux, qui font de grandes œuvres pour Dieu. Dans toutes les périodes de la chrétienté, même s'il y a des choses, des reproches à faire, n'oubliez pas, il y a eu des gens consacrés à Christ. Il y a des gens qui ont porté le flambeau de Christ. Comme à l'époque d'Élie, il y avait 7000, alors qu'Élie ne savait pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ne nous décourageons pas et soyons fidèles, fidèles, soyons salés de feu, comme c'est mis dans l'Évangile, c'est-à-dire le feu, Jérémie 23, verset 24, c'est la parole de Dieu. Salé par la parole, scellé, changé, purifié, scellé à Dieu par sa parole qui purifie, qui sale, qui brûle. Alors, y a-t-il d'autres versets qu'on pourrait lire? 1 Corinthiens 5, versets 6 et 7. Chers amis, si vous n'avez pas Facebook, ou si certaines de vos connaissances n'ont pas Facebook, cela est remis par notre frère Jean-Christophe sur le site de l'Église. Donc vous pouvez les retrouver un peu après, je ne sais pas, c'est pas toujours aussi vite, mais en tout cas, en toute façon sur Facebook, ça reste. Romains, chapitre 5, verset 17. Pardon. Je suis perdu. 1 Corinthiens 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous avez vu? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Pourquoi est-ce que le grand symbole du pain sans levain a été donné à Israël pour sortir d'Égypte? Il ne faut pas prendre les idoles d'Égypte, il ne faut pas prendre la culture d'Égypte, il ne faut pas prendre tout ce qui est les vérités qui se sont incrustées en vivant 400 ans là, il faut les quitter. Il faut passer la mer Rouge avec un pain sans levain. Eh bien, Paul reprend la même image, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu en gardant notre culture de bourgeois ou de bandits, ou de prostituées, ou de je sais pas quoi, d'hommes d'affaires, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, tout est souillé sur cette terre. Alors, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, donc c'est le Christ qui veut que nous soyons sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, donc la fête de la foi, la fête de notre relation avec Christ. Célébrons Eucharistène, célébrons Christ, sa résurrection, son amour pour nous. Non avec du vieux levain, mais avec un levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, vous avez vu, c'est clair. Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est quand même radical. C'est très difficile, chers amis. J'admets que ça s'adresse à moi autant qu'à vous. Mais faites attention, méditez ces versets. Ne les lisez pas et puis zoom, on passe à autre chose. Méditez-les, passez une journée. Il m'est arrivé de passer 3 jours sur un seul verset, de jeûner et prier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être comme une épée qui me rentre dans la jointure des os, des vertèbres, qui discerne mes pensées, les sentiments de mon cœur, et qui les purifie. Qui les purifie, chers amis. Eh bien, il y a toujours eu des chrétiens qui ont accepté l'autorité de la parole de Dieu, malgré qu'une grande majorité n'acceptait pas l'autorité de la parole de Dieu, mais cherchait l'autorité du pape, l'autorité d'un patriarche, l'autorité d'un empereur, d'un prince-évêque, etc., coalition entre le politique et le religieux, que Dieu n'a jamais voulu, que Jésus n'a jamais voulu. Alors, n'oubliez pas que l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople se balancent une bulle, c'est-à-dire une lettre, et ils s'excommunient, c'est-à-dire ils sortent de la communion de Christ entre eux. C'est beau, hein, c'est magnifique. D'où la faiblesse de toutes les églises au 7e siècle. La faiblesse de toutes ces églises qui se sont reposées sur l'homme, qui se sont reposées sur les traditions, sur une appartenance, une identification culturelle, régionale, parfois une grande région, n'est-ce pas? Et boum, voici l'islam. L'islam arrive avec force, avec quelques milliers de cavaliers, et il balance les villes une après les autres dans l'islam. Damas a été pris, par exemple, les cavaliers qui venaient d'Arabie ont entouré, sont arrivés, ils étaient quelques milliers, il y avait des fortifications, les gens de Damas étaient beaucoup plus nombreux, ils étaient chrétiens, enfin de nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé que la ville se rende. Il y a d'un côté de la ville un chef qui a refusé et qui s'est battu, qui les repoussait. À l'autre bout de la ville, un autre chef a ouvert la porte en disant rentrez, du moment que vous nous gardez la vie sauf, du moment que vous nous gardez la vie sauf, vous pouvez venir avec votre religion et votre armée. Et donc, Damas est tombé comme ça en quelques heures. Quand Damas a été pris, quelques années après, on voit dans les écrits des évêques orthodoxes qui sont à Jérusalem, l'islam va venir nous envahir à Jérusalem. Il a pris Damas, ça va être bientôt notre tour. Et il suppliait le patriarche de Constantinople de venir à son secours. Pouet, pouet. Rien n'a été fait. Et l'islam a pris Jérusalem. Mais allons un peu plus loin en profondeur. Quand le calife Omar a pris Jérusalem, il est arrivé et il a vu que le mont du Temple, là où avait été le temple de Salomon, que Titus avait rasé, il y avait plein d'excréments, de poubelles. Les chrétiens orthodoxes, tous les chrétiens considéraient cet endroit-là où les Juifs avaient eu un temple, et avec raillerie, moquerie, ils mettaient leurs poubelles, leurs cadavres de chiens, de poules, tout le reste là. Et ils ont construit tout alentour des églises patriarcales, pour tel et tel patriarche, pour tel et tel rite byzantin. Quand Omar est arrivé, le calife Omar, il a fait nettoyer toute la place, tout le mont du Temple, tout jeter dans le Cédron, dans la vallée de la Géhenne. Il a tout nettoyé. Et par respect pour le lieu, il n'a pas voulu construire quelque chose là. Il a construit en dehors la mosquée qu'on appelle la mosquée d'Omar. C'est quelques dizaines d'années après que le calife suivant a fait construire sur le rocher qui émerge dans tous les dalles, il y a un rocher qui émerge. C'est le rocher du mont Morija où Moïse, pardon, Abraham voulait sacrifier son fils et où Dieu a mis un bélier, où un sacrifice d'un bélier a été fait, 21 siècles avant la condamnation de Jésus au même endroit par le grand Sanhédrin. C'est là que l'autre calife a fait construire une belle mosquée qui est toujours là, alentour avec des colonnades, et on voit au milieu le rocher d'Abraham et du sacrifice. Chers amis, les musulmans ont respecté le lieu et les chrétiens n'ont pas respecté. Vous voyez à quel point on a été très bas dans la chrétienté? Vous voyez qu'on ramasse des leçons? On n'en ramasse pas aujourd'hui? Mais bien sûr que si. Les musulmans prient 5 fois, ils vont à la mosquée. Ils sont pieux. Il y en a beaucoup qui craignent Dieu. Nous, c'est à peine si on va au culte le dimanche. C'est à peine si on se réunit en semaine pour prier. Et quand on n'est pas content d'une église, on passe à l'autre. On change de magasin, Intermarché, Delhaize, Auchan. Le roi Merlin, on change de boutique. Vous voyez que les musulmans s'amusent comme ça? Ils ont la crainte de Dieu, ils ont la piété. Eh bien, c'est pas mieux qu'à Jérusalem, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés à Jérusalem. D'où vient la leçon, chers amis? D'où vient la leçon, pour finir? Est-ce que Dieu n'a pas permis que ça arrive? Moi, je le pense. Alors, je voudrais vous parler, à la même époque, à partir du 5e siècle jusqu'au 8e siècle, il y avait dans ce qu'on appelle la Turquie, l'Asie mineure, il y avait à l'ouest, Constantinople, et puis toutes les églises avec des icônes, des encensoirs. Et vous savez, dans toutes ces églises, il y a comme une paroi où les prêtres sont en train de chanter, etc., de lire, et puis ils ressortent, ils ouvrent une petite porte, ils viennent tout près de l'assemblée. Et c'est tout un rite chez les orthodoxes. C'est beau. Ça dure 2, 3 heures, on chante, etc., ça sent l'encens partout. Mais voilà. Ça, c'était Constantinople et une grosse moitié de la Turquie. Mais à l'est, ce qu'on appelle les Kurdes aujourd'hui, à l'est, les chrétiens ouvraient les évangiles et surtout les épîtres de Paul. Et les chrétiens là demandaient à être baptisés quand ils étaient convertis, nés de nouveau. Ils ont établi des églises qu'on appelle, parce que les autres se sont moqués, ils les ont appelés les pauliciens. Pendant 4 siècles, il y a eu des pauliciens combattus avec des armées de Constantinople par ceux qui avaient des icônes, etc. Voilà le conflit interne des chrétiens en Asie mineure, en Turquie, qui va tellement affaiblir le tissu chrétien, tellement scandaliser les gens, que pour finir, quand l'islam est venu, ben ils l'ont bu comme une bonne tasse de thé. Une bonne tasse de café. Il tournait la page sur quelque chose qui avait été un cauchemar. Alors, les armées de Constantinople allaient attaquer dans le Kurdistan tous ces chrétiens pauliciens. Mais on retrouve aussi des églises en Syrie qui ont adopté la même attitude, qui ont abandonné les rites religieux. Il y avait des églises avec des mosaïques, des encensoirs, des peintures. Eh bien, on retrouve dans la région de Syrie, des églises où on voit de belles fleurs, des mosaïques, des belles choses, et tout d'un coup, au burin, on a retiré les visages. Tous les personnages, tout ce qui était idolâtrie, représentation humaine ou représentation d'animaux. Et ça, c'est les pauliciens qui avaient prêché, et qui, un peu comme les protestants, arrivés à une certaine époque, brûlaient les statues, cassaient les statues. Eh bien, ils laissaient l'église, ils laissaient les mosaïques. Mais on trouve généralement les visages, les personnages taillés au burin, les mosaïques sont ensautées. Donc on voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des réveils spirituels. Mais pourquoi, pourquoi l'ivre est-il si fort? Pourquoi l'ivre a-t-il poussé si fort et qu'il a étouffé le blé? Il reste du blé, il reste des chrétiens qui chantent, qui ont des églises qui prient en araméen, en Syrie, en Irak, au Liban. Ils sont peu nombreux. Mais pourquoi y a-t-il eu une œuvre si forte du chien-dent, des fils du malin? Pourquoi? Parce que l'autorité de la parole de Dieu, la parole qui est comme un feu qui sale, qui purifie, la parole n'était plus mise en avant dans les églises. La parole de Dieu était secondaire. Jésus a dit, Jean chapitre 17, ma parole est la vérité. Ma parole vous sanctifie. Jean 17, 17. Alors, allons-nous vers la voie de la sainteté ou vers la voie de l'ivraie? C'est continuel. C'est tout le temps la même chose. C'est un dilemme. Jusqu'au moment où Jésus va revenir. Nous, chrétiens, nous avons été avertis par toutes les paraboles. Bien sûr, il faut aussi qu'on les ait enseignées. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous avez, bien sûr, ce drame en Turquie, vous aviez un drame aussi en Algérie, dans le nord du Maroc, la Tunisie. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que, comme Auguste, Cyprien de Carthage, tout près de Tunis, Supreme Carthage avait inventé le prêtre en 365. Par la suite, il y avait des prêtres fidèles à Dieu qui voulaient enseigner la parole et puis des autres enseigner des rites et l'obéissance à Rome. Et il y a eu, de la part des églises, une adhésion du cœur pour que les prêtres soient fidèles, les responsables d'église soient fidèles et de bonne qualité spirituelle. Eh bien, pour Rome, ça ne plaisait pas. On envoyait les armées, on a massacré des milliers d'églises. Et voilà. Et on a bien sûr trouvé des défauts chez ces chrétiens de Numidie, d'Algérie, de Tunisie. On appelait ça le donatisme. Oui, il y avait peut-être des défauts, mais à Rome, il y en avait des monstrueux, des défauts monstrueux. C'est pour ça que Jésus a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais regarde la poutre qui est dans le tien. Tout est dit par Jésus. Donc, puisqu'on est dans un climat pareil, l'islam conquérant va avoir facile. Parce que la population est déçue, dégoûtée, faible. Elle tape d'un pied sur l'autre, un peu comme à Ninive quand Jonas est arrivé. Ils ne connaissent pas leur main gauche ou leur main droite. Eh bien, ici, en Occident, aujourd'hui, on ne connaît ni la main gauche ni la main droite aussi. Même chez beaucoup de chrétiens. Et ce qui se passe, l'islam avance. Je pense que c'est une sanction venue de Dieu. Prenons Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Que dit Jésus-Christ au responsable de cette église d'Éphèse qui vient le voir sur l'île de Patmos, parce que Jean est prisonnier en résidence surveillée là, donc il y a un responsable de chaque église qui vient, un messager, angelos en grec. Et donc voilà, ben il félicite, Christ félicite les œuvres, le travail, la persévérance. Tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui disent apôtres, qui ne sont pas, tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est très beau. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc que tu es tombé, repends-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi. La première œuvre de la foi, c'est l'union à Christ. C'est l'union à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. C'est l'amour de sa parole. C'est la pratique de sa parole. Jean l'a dit dans Jean 5, versets 23 à 26. Celui qui garde ma parole, le met en pratique, est passé de la mort à la vie, il ne passe point un jugement. Donc clairement, cette église va subir un jugement. Et qu'est-ce qu'il dit? Christ, qu'est-ce qu'il dit? Je viendrai à toi, verset 5. J'ôterai ton chandelier de sa place. Ben, l'islam est arrivé. Et c'est pas que cette seule église. Que ce seul territoire. C'est arrivé au Maroc, en Espagne, en Irak, au Portugal, en Turquie, en Arménie et en France du Sud. L'islam a été implanté 3 siècles dans le Var, dans les Pyrénées. 3 siècles. Et ils sont montés jusqu'à Poitiers, ils sont montés jusqu'à Lyon. Charles Martel, un franc, leur a mis la fessée. Ils sont partis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Qatar Charity a fait créer une avenue à Poitiers, là où il y a eu le champ de bataille, où il y a eu la bataille, où l'islam a été repoussé. C'est l'avenue des martyrs. Et une immense mosquée de 3 millions d'euros, construite avec les sous de Qatar Charity, c'est la mosquée des martyrs. Et l'État français a laissé faire. Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? Je pense que nous sommes bien plus loin que nous ne pensons. Nous avouons notre iniquité. Nous avouons notre manque de foi, notre infidélité à Christ. En lisant de telles choses. Au 9e siècle et au 10e siècle, il y a eu une cadence totale, décadence totale des prêtres à travers tout l'Occident, même l'Orient, seulement les ordres religieux tenaient le coup. D'où Saint Benoît a créé l'ordre des bénédictins. Cet ordre des bénédictins a inspiré ensuite des autres hommes pour créer les trappistes, les cisterciens, etc. D'autres religieux plus tard, au XIIe siècle. Mais ce qu'il y a, c'est que cette décadence totale des prêtres qui vivaient n'importe comment, avec plusieurs femmes, ou qui pratiquaient l'argent et meurtre, eh bien tout cela, en plus d'une annonce fausse des responsables religieux, où le retour de Christ était pour l'an 1000, tout cela a provoqué une grande déception, un grand vide spirituel, un grand vide moral en Occident. Sont apparus alors, au XIe siècle, des ordres religieux venus d'Irlande. Ces ordres religieux étaient des moines, des célibataires. Et donc, ce n'étaient plus donc des gens mariés qui étaient à la tête des communautés. Les gens mariés étant défectueux, n'ayant pas conduit leur vie de manière sainte dans la parole, au 9e, 10e siècle, au 11e siècle, l'Irlande envoie ses moines. Les moines réévangélisent la France, etc., d'autres pays, et ils établissent des monastères. D'où l'idée, puisqu'on s'était trompé une fois avec Saint Augustin au 6e siècle, pas de retour de Christ, en l'an 1000, pas de retour de Christ, ben il n'y en aura pas. On ne va pas croire au retour de Christ. Le royaume de Dieu sur terre, c'est l'Église catholique. D'où l'idée qui s'est incrustée, c'est que le pape, les évêques, avaient une autorité suprême de la part de Dieu sur toute la population, y compris par la force. Ils étaient le royaume de Dieu. L'Église catholique est devenue le royaume de Dieu sur terre, dans sa tête, dans son esprit. Et donc, on a développé des abbayes, et les abbayes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Les ordres religieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils embauchaient des milliers, des dizaines de milliers de jeunes filles pour les ordres religieux féminins, des dizaines de milliers d'hommes célibataires qui étaient analphabètes, qui n'avaient pas de travail, ils les mettaient comme petits frères, les frères convers dans les abbayes. Tout était organisé. Si vous n'avez pas encore visité cela, allez à Tournus, visitez l'ancienne abbaye de Tournus, pas loin de Mâcon, Dijon. Vous verrez, il y avait des dortoirs pour des centaines de prêtres, de frères convers, en rangée d'oignons. Il y avait des tables à ne pas en finir en bout, où ils étaient tous à un côté de l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, puisque j'ai fait des études comme prêtre, il faut savoir que bien sûr j'ai eu la confidence de certains théologiens, et puis j'ai été dans les bibliothèques, lire. Eh bien, c'est qu'en général, là où il y avait toutes ces abbayes, c'est là, pendant la nuit, que les frères convers sortaient et faisaient des petits à droite et gauche. C'est là qu'on a le plus de maladies consanguines et d'anormaux et des gens instables au niveau psychique. On prend un repas, un compas, on fait un rayon de 30 km à l'entour de l'abbaye, on va trouver un tas de personnes anormales, avec un psychisme déglingué des esprits. Et en plus, plus tard, quand est venu le marxisme, toutes ces régions sont devenues super socialistes et communistes, à fond rouge, à fond contre l'Église catholique. Et où est-ce que j'ai appris ça? Non pas à l'Institut biblique à Algrange, au séminaire catholique. C'est là que parfois des professeurs nous ouvraient les yeux et nous montraient, voilà le résultat de tous ces trucs-là. Ne faites pas comme eux. Alors, l'apparition des ordres religieux est l'image d'une conviction théologique. Le royaume de Dieu sur terre est là. C'est le pape, ses évêques, ses armées et ses moines, ses religieuses, ses abbayes, qui de plus en plus, puisque chacun donnait son héritage à l'abbaye, étendaient leur territoire et leur pouvoir économique au fur et à mesure des héritages qu'ils recevaient. Durant ce 11e siècle où tout cela se passe, il y a en Espagne, c'est encore musulman, il y a en Espagne quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a un juif, un homme très cultivé, Maïmonide, qui connaît l'arabe, qui est juif, et qui connaît à travers l'arabe tous les écrits de Platon et de Aristote. Et il les traduit en latin. Il traduit tous les écrits d'Aristote et de Platon en latin. Et donc, au XIe siècle, énormément de gens se sont intéressés à la pensée des philosophes, plus qu'à l'évangile, évidemment. Parce qu'au XIe siècle, en 1067, on a interdit la lecture de la Bible. Eh oui, jusqu'à Jean 23, 9 siècles. C'est un petit peu ou c'est beaucoup pour vous, la Bible interdite? On allait jusqu'à dire dans certaines régions que si on avait la Bible, le diable rentrait en nous, on devenait fou, pour faire peur aux gens. Alors Maïmonide a donc traduit les écrits de Platon et d'Aristote. Et donc, les écrits de Platon, je simplifie tout ça, là. Moi j'ai dû étudier tout ça, je simplifie. Platon considère que ce n'est pas tellement le corps qui est important, ce sont les éons, ce sont les âmes, les esprits, les âmes des hommes. Et il y a une espèce d'abandon de l'importance du corps, ce qui n'est pas chrétien. 1 Corinthiens 7, notre corps appartient autant que notre âme à Christ, parce qu'il a payé le prix pour notre corps et notre âme. Mais en tout cas, ce courant se développe, alors on fait des belles abbayes, le long du Rhin, Maître Eckhart, Sainte-Hildegarde, et en Belgique, dans les forêts de Soignes, Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ, le livre, l'imitation de Jésus-Christ. Tout cela vient de cette époque-là. Et on retourne vers Jésus-Christ, mais avec une conception mystique, très mystique. Pas tout à fait comme Jésus. Jésus était terre à terre. Il fallait naître de nouveau, il fallait confesser son péché. Oui, bien sûr, il y avait une sensibilité au péché, il y avait une sensibilité à l'évangile, mais on n'a pas parlé de nouvelle naissance. On n'a pas parlé du don du Saint-Esprit. On était tellement poussé mystiquement à Dieu qu'on pensait qu'on avait le Saint-Esprit. Vous savez, on peut confondre les vessies et les lanternes, hein? Mais la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, c'est une action de Dieu en nous. Tandis que le platonisme qui a gagné énormément de régions en Allemagne, sur le Rhin, etc., en Belgique, c'est une mystique. C'est une intuition spirituelle venue de l'homme. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais on a confondu, je vous le dis, les torchons et les serviettes, les vessies et les lanternes, l'intuition mystique a semblé être la nouvelle naissance. Figurez-vous que moi j'étais assez mystique et pendant des années, j'aurais confondu. Ben oui, puisque j'avais cherché, cherché, j'avais lu, ben je suis tombé comme un nigaud là-dedans. Donc, on peut être de bonne foi à côté de la parole de Dieu. En mélangeant des idées qui viennent de Platon ou d'autres penseurs comme Platon et l'Évangile, on en fait une bonne soupe et on est hors de la parole de Dieu. Et puis il y a eu, mais je ne peux pas critiquer tout, je mets en garde contre le danger du domaine de l'intuition mystique. Il est clair qu'il y a énormément de richesses dans ce courant mystique rhénan de Maître Eckhart, de Hildegarde. Hildegarde, c'était la petite-fille de Charlemagne. Charlemagne, c'est un rustre qui a assassiné plein de gens, des chrétiens, mais Hildegarde, pas du tout. C'était une personne remarquable. Alors, il y avait un autre courant, c'est celui qui s'est basé sur Aristote. Aristote, c'est un homme qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus, qui a eu beaucoup d'influence sur les cadres. Il a même formé intellectuellement Alexandre le Grand, le grand conquérant. Il a parlé de Dieu. Aristote avait une métaphysique où il parlait de l'être suprême, séparé de la création, et qui donnait l'existence aux êtres que nous sommes et à la nature. Il avait une très grande profondeur, Aristote. Aristote a beaucoup réfléchi et il s'est approché de Dieu, mais il n'a pas connu Dieu, ni Alexandre le Grand, puisqu'il est devenu homosexuel et il a conquis une grosse partie du monde en 13 ans de temps. Il avait des visions des batailles, des révélations, pas plus, c'est pas des intuitions, des révélations diaboliques, des batailles. Il savait où il devait prendre. Il a battu les Mèdes et les Perses, 550 000 hommes avec 23 000 hommes. Ok? Donc, il y a eu à travers tous les enseignements d'Aristote quelques bons fruits et des mauvais fruits à son époque, mais c'est clair, les chrétiens du 11e, 12e siècle se sont intéressés à Aristote parce qu'ils s'approchaient de Dieu. Et alors, Thomas d'Aquin et Anselme de Cantorbéry, qu'on appelle Saint Thomas d'Aquin et Saint Anselme dans le catholicisme, ont créé ce qu'on appelle le thomisme, une grande théologie, et on a créé des universités thomistes à Louvain, en Belgique, en France, etc., droite et gauche, et avec l'appui des riches, l'appui des évêques, on a formé des religieux, des intellectuels à la pensée thomiste, jusque à la moitié du XXe siècle. Qu'est-ce que fait le thomisme? Il raisonne. Donc, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Eh bien, on va finir, par exemple, Thomas d'Aquin va, avec Anselme de Cantorbéry, dire qu'au moment où le prêtre prie, le pain se change dans le corps de Christ, le vin se change dans le sang de Christ. La transsubstantiation est le fruit de la pensée aristotélicienne, thomiste, de saint Thomas d'Aquin et de saint Anselme de Cantorbéry. Chers amis, voilà le catholicisme qui est encore là aujourd'hui. Et quand Jean-Paul II, avec 183 évêques, tenait tête à Jean XXIII, avec 2500 évêques, Jean XXIII voulait une grande réforme de l'Église catholique. En 1960 à 63, jusqu'à sa mort. Peuple de Dieu, en marche par la foi à la lumière de la parole de Dieu. Il avait créé toute une nouvelle organisation, un nouveau droit canon et tout ça. Et il y avait un cardinal polonais qui lui tenait tête avec 183 évêques. C'est le futur Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, enfin, Karol Wojtyla disait non. Église, société parfaite, hors de l'Église, point de salut. Ce n'est pas d'abord la parole de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église qui sauve. On en revient à tous les égarements des premiers siècles de la chrétienté à partir de Constantin. Jean-Paul II y tenait très fort. Il a tenu tête au communisme, au socialisme en Pologne, c'est vrai. Il a envoyé 50 millions de dollars du Vatican pour soutenir Solidarnosc. Bon, les Polonais sont très heureux d'avoir eu Jean-Paul II pour se débarrasser du communisme. Mais n'empêche qu'on s'est débarrassé de la plus grande réforme spirituelle de l'Église catholique. Chers amis, j'en reste là aujourd'hui. Je vais reprendre la méditation sur le catholicisme après. Et qu'est-ce que ça sera? Eh bien, ça sera, au XIIe siècle, la reconquête de l'Espagne et du Portugal. Le grand carnage des musulmans et les grands courants mystiques sur le Rhin, les grands courants rationalistes thomistes, il faudra que j'en dise quelque chose, et les grands monastères. Et puis, dans les grands monastères, il y a ce qu'on appelle Bernard de Clairvaux. Clairvaux dans l'Aisne, dans le nord de la France. Bernard de Clairvaux qui avait le don d'hypnotiser le pape. Et le pape a décrété une croisade, la première croisade qui a commencé à Blois, avec Godefroy de Bouillon, parce qu'il était hypnotisé par Bernard de Clairvaux. Or, Bernard de Clairvaux a de très beaux écrits sur le Christ, magnifiques, grandioses. Mais c'était quelqu'un qui est un médium. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, on peut mélanger les arts de Satan et la parole de Dieu. Méfiez-vous pour l'Antichrist qui est bientôt là. Méfiez-vous des faux prophètes aujourd'hui. Méfiez-vous, car la bataille est serrée entre la vérité et Satan. Au nom de Jésus, je vous bénis. À lundi.